Ce matin, on va continuer la suite dans Marc et on va regarder ensemble la parabole du semeur. Et quand, Marc chapitre 4, quand j'ai reçu le courriel de Joël et j'ai vu que c'est la parabole du semeur, je vais être bien franc avec vous autres, j'ai dit « Ah non! » Parce que, j'ai dit, tout le monde la connaît, cette parabole-là, même des gens qui ne fréquentent pas les églises la connaissent. Puis comment susciter de l'intérêt d'un texte que, bon... Tout le monde connaît. Mais c'est un texte tellement riche. Tellement riche. Et ça m'a forcé devant Dieu de le relire, de le réétudier, de le redécouvrir. Et le Seigneur m'a vraiment fait du bien lors de ma préparation, de ma lecture. Et j'aimerais pouvoir justement vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Donc, on va tourner dans Marc, le chapitre 4, et on va lire jusqu'au verset 34 ensemble. On va prendre le temps de le lire comme il faut, du verset 1 jusqu'au verset 34. Ça, on va l'avoir dans notre frais, dans notre esprit, d'un bout à l'autre. Et après la lecture, on va demander au Seigneur qu'il nous dirige, parce que ce matin, j'espère de tout mon cœur que vous n'êtes pas venu m'entendre. Parce que ce serait vraiment, vraiment un affront envers Dieu, là, une telle pensée. On n'est pas ici pour entendre qui que ce soit. Des hommes qui nous parlent, on en entend tout le temps. Là, on veut savoir ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Point final. Si vous pensez que je dis des choses qui viennent de moi, bien, bouchez vos oreilles, écoutez-les pas. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut entendre. On veut entendre ce qui vient de la parole. C'est ça qui est important. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit, dans son enseignement, « Écoutez! Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Les oiseaux verts et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entourèrent avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. Or, on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met le fossile, car la moisson est là. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de senevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombrage. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons prendre quelques instants pour méditer, pour réfléchir ensemble sur ce texte qui est absolument merveilleux. Merci avec la franchise avec laquelle tu nous parles. Merci, Seigneur Jésus, que tu nous aimes assez pour nous dire les vraies choses. Et on te demande que tu puisses nous accorder la sagesse de comprendre. Je te supplie de m'accorder la sagesse de communiquer ta parole et qu'ensemble nous puissions être bénis par qui tu es, par ce que tu dis et par ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus. Amen. J'ai pris le temps d'écouter le message de la semaine dernière, étant donné que je voulais être capable d'embarquer justement dans la suite, et surtout que la semaine dernière était vraiment un message très touché, on pourrait dire, hein, le péché impardonnable. Et je dois lever mon chapeau à M. Laverne, pasteur Laverne, qui a vraiment bien livré ce texte qui n'est pas facile à entendre, avec beaucoup de douceur et de droiture. Et ce matin, on veut continuer à exposer les textes bibliques avec le même respect. Mais j'ai une mauvaise nouvelle ce matin pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que dans le texte de ce matin aussi, il y a un péché impardonnable. Maintenant, si quelqu'un vient prêcher la semaine prochaine, puis continue, puis vous dit qu'il y en a un troisième, vous pouvez lancer des roches ou des tomates, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'en veut pas trop de ceux-là. Mais on pense à la parabole du semeur et on pense à la petite histoire qu'on conte aux enfants. Et on reste souvent à un niveau de réflexion très léger. On la survole comme si on l'avait compris de la première lecture ou de la première réflexion. Mais le Seigneur Jésus, dans le texte ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est assez sévère dans ses propos. Surtout quand on considère le verset 25. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je crois que de tous les versets qu'on a lus ce matin, du verset 1 jusqu'au verset 34, si vous pouvez vous rappeler d'un seul verset, ce serait le verset 25. Je crois que dans le verset 25, le Seigneur Jésus est en train de donner le punch, le coup de poing de la parabole du semeur. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, mon objectif ce matin, c'est que nous puissions, premièrement, comprendre cette affirmation. Et je crois que si on arrive à comprendre cette affirmation d'une façon claire, on va avoir une meilleure compréhension de tout le texte et de tout son contexte. Donc, la parabole du semeur est un avertissement sévère de la part de Jésus concernant le danger de ne pas accueillir ou de mal accueillir la semence du salut dans sa vie. Effectivement, que peut-il rester comme pardon de la part de Dieu à une personne qui rejette ce pardon? Certes, le fait d'être pardonné pour pouvoir faire partie du royaume est offert à tous, mais sans un accueil sincère et véritable, ce pardon ne peut porter du fruit et de la repentance dans nos vies. De plus, ce pardon doit être reçu afin d'être appliqué dans ma vie. Malheureusement, cette vérité biblique-là est présentement sous attaque. Il commence à être populaire dans les milieux évangéliques de croire, étant donné que Christ est mort pour tous, que le pardon se répand sur tous sans exception, et que tu confesses Jésus ou pas, tu vas au ciel. Que tu confesses Jésus ou pas, étant donné que le sacrifice de Jésus il couvre tous les péchés, tous sont pardonnés. C'est complètement faux. Et il est dangereux de penser ainsi. Le pardon de Dieu est offert à tous, mais n'est pas appliqué dans la vie de tous. On voit quatre sortes de personnes dans la parabole du semeur. Et la semence porte du fruit et a effet dans un seul groupe et non dans les quatre. Et il serait dangereux pour une personne de croire qu'elle est pardonnée quand elle ne le serait pas. Souvent, quand je m'occupe de jeunes, il y a des jeunes qui viennent me voir, puis Israël, tu penses-tu que je suis sauvé? Posez-moi pas cette question-là, vous n'aurez pas de réponse. Je ne voudrais pas avoir l'odieux de juger une personne sur son salut. Est-ce que j'ai le droit de regarder quelqu'un puis de lui dire « t'es pas sauvé » Je ne pense pas que c'est à moi de dire ça. Mais est-ce que j'ai le droit de dire à une personne « t'es sauvé » Et si elle ne le serait pas? Je pourrais être coupable de faire croire un mensonge à quelqu'un. Dieu est amour et il pardonne tout le monde, dit-on. C'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité. Et depuis que je suis tout petit, on me dit qu'une demi-vérité, c'est un... Exactement. Quand c'est pas tout vrai, c'est tout faux. Parce que ce qui est important, c'est pas tout à fait ce qui est dit, mais ce qui est compris quand c'est dit. Un bon menteur peut même dire la vérité, mais que tu comprends quelque chose de contraire à ce qui a été dit. Il va s'en laver les mains parce qu'il a dit la vérité, mais toi, c'est pas la vérité que tu as compris un mensonge. Ça, c'est très important. Dieu est amour, Dieu veut pardonner tout le monde. Et à la rigueur, on peut même dire que Dieu pardonne tout le monde, dans le sens qu'il offre son pardon à tous. Mais, est-ce que ce pardon est effectif et applicable dans la vie de tous les êtres humains? Oui, Dieu veut me pardonner. Dieu veut te pardonner. Dieu veut t'inclure dans sa famille. Non seulement est-ce qu'il veut le faire, mais il t'interpelle à le faire. Il t'attire à le faire. Il te demande de le faire. La La question, c'est quel sera ton choix? Quel sera ton choix? Dieu veut me donner la vie par une semence de vie. Dieu veut me donner la vie par une semence de vie. Si je rejette cette vie, tout ce qui me reste, c'est la mort. Dieu veut me donner la vie. Et si Dieu veut me donner la vie, on ne donne pas la vie à quelqu'un de vivant. Et si Dieu veut me donner la vie, c'est parce que je suis mort. Et que peut-il rester à une personne qui rejette la vie que Dieu donne? Il y a le blasphème du Saint-Esprit que Dieu ne peut pas pardonner. Ça, vous avez vu la définition la semaine passée. La deuxième chose que Dieu ne peut pas pardonner, c'est que tu ne veuilles pas de son pardon. Que tu n'accueilles pas son pardon. Et il y a un jour où ce pardon ne sera plus disponible à personne. Il y a un jour où Dieu va tourner la page de ta vie. Et tu vas te présenter devant lui. Et il va te poser la question. Pourquoi m'as-tu dit non? Pourquoi m'as-tu dit non? Et Dieu a beau être bon, tu as déjà dit non. Et Dieu va respecter ton choix d'avoir rejeté la vie éternelle. Le royaume de Dieu est pour les pardonner. Ceux qui ont le pardon auront le royaume des cieux. Ceux qui n'ont pas le pardon n'auront pas le royaume. Il y a une seule chose. J'ai bien aimé le directeur de louange. C'est quelqu'un qui peut me dire son nom, là? François. Tout ce qu'on a de besoin, c'est Jésus. Tout ce qu'on a de besoin, c'est Jésus. 1 Jean 5, 12, c'est le titre du message ce matin. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pas compliqué, mais c'est la vérité. Il y a une seule chose que tu as besoin. Il y a une seule chose que j'ai besoin. J'ai beau manger 3 fois par jour, avoir une super de belle famille, une épouse extraordinaire, puis des enfants, puis un travail, puis tout ce que j'ai de besoin. Si je ne connais pas Jésus, je n'ai absolument rien. Et peut-être que tu es ici ce matin avec tout ça. Ou peut-être que tu n'as rien pour être heureux dans la vie. Mais que tu aies tout ou que tu aies rien, ça, c'est pas grave. Arrête de chercher et donne ta vie au Seigneur Jésus. Tu as trouvé. Ta recherche arrête ce matin. Oh, si tu veux, tu peux dire non, puis tu peux continuer. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais sache que ton cœur désire la vie que Dieu veut lui donner, et tant aussi longtemps que tu ne diras pas oui à cette vie, tu resteras mort, même si tu manges 3 fois par jour. Il y a une seule chose que j'ai besoin, c'est Jésus. Jésus me permet par son sacrifice d'être accueilli par Dieu. Wow! Y a-t-il quelque chose de plus beau que d'être accueilli? J'aime ça être accueilli. C'est plus précieux qu'un cadeau. C'est plus précieux que n'importe quoi que quelqu'un peut te donner qui t'accueille. L'accueil, c'est le don de soi. On est des êtres relationnels et l'accueil, c'est tellement important. Tu as besoin d'être accueilli par Dieu. Et tant aussi longtemps que tu résistes à cet accueil, tu n'auras rien et tu n'auras jamais rien. Pourquoi est-ce que il y a des jeunes dans la rue au centre-ville de Montréal dont leurs parents sont médecins, avocats, millionnaires et qui pourraient avoir toutes leurs études payées? J'en connais. Mais qui ont choisi de dire non à tout ça. Je sais pas si vous avez vu le film du gars qui part, il disparaît dans le bois en Alaska, puis il va se retrouver dans un autobus tout seul. Il abandonne son char, il brûle son argent. Puis il meurt de faim ou empoisonné, là, je me rappelle plus trop, dans le fond du bois en Alaska. Il mangeait 3 repas par jour. En dedans, il était mort, puis il recherchait la vie. Et il y en a beaucoup plus qu'on pense. On pense qu'ils sont fous. Vraiment? Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus honnêtes que la majorité des gens autour de nous. Qui ont l'honnêteté de dire que ce après quoi la société court, c'est de la foutaise, et ils se mettent en marge. Puis ils regardent le train passer, puis non, j'en veux pas. Ils veulent de rien parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui a de la valeur. Mais ils n'ont pas tort de débarquer et de dire que ça n'a pas de valeur. Ah, tu peux rester dans le train, puis tu peux te faire à croire que tu es heureux, puis tu peux te faire à croire que la vie va bien, puis tu peux te faire à croire toutes sortes de choses. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui va te rester? Laisse-toi accueillir comme Dieu veut t'accueillir. Et arrête de courir à gauche et à droite avant qu'il soit trop tard. Et que Dieu lui-même t'enlève même ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bébé? Ah, soyons pas trop explicites ce matin. On va juste dire que ça prend un papa puis une maman. Vous êtes d'accord avec ça? Pour faire un bébé, ça prend un mâle puis une femelle. Pour faire une semence, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une fleur puis du pollen. Pour faire du fruit, qu'est-ce que ça prend? C'est un agronome qui peut répondre à cette question-là. Hein, pour faire du fruit, ça prend de la semence. Ça prend d'autres choses que de la semence, mais si tu n'as pas de semence, t'es mal parti. Ça prend la semence et la terre pour faire du fruit. Maintenant, que fait-on avec un commerce non rentable? Un employé paresseux. Un arbre fruitier sans fruits. Ou une vache laitière sans lait. Hein? Allez chez McDo, vous allez savoir. Maintenant, je pense que vous avez la réponse. Hein, avec un commerce non rentable, pas compliqué, on ferme ça puis on arrête de perdre son temps. Avec un employé paresseux, ça prend un bon coup de pied au derrière, va-t'en, puis on va trouver quelqu'un qui sait travailler. Puis un pommier qui porte plus de pommes, mais tu le coupes et t'en plantes un qui va produire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait d'une créature créée pour la gloire de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas connaître Dieu et qui, par-dessus tout cela, vit une vie offensante à l'égard de Dieu. Si nous, on le fermerait le commerce, on le congédierait le paresseux, on couperait l'arbre fruitier, puis on ferait du hamburger avec la vache, qu'est-ce que Dieu fait d'une personne créé pour la gloire de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas connaître Dieu, et qui par-dessus tout cela, vit une vie offensante à l'égard de Dieu. J'espère qu'il ne fait pas du hamburger. Il serait logique de dire que Dieu fasse comme un commerce non rentable, comme un employé paresseux, comme un arbre fruitier ou comme une vache. On pense à d'autres choses. On règle le problème, c'est pas long. Mais heureusement, même si ça serait la logique des choses, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas connaître Dieu, et qui en plus mène une vie offensante envers Dieu. Il y a encore de l'espoir. Heureusement, Dieu ne veut pas fermer boutique avec moi, ne veut pas me congédier, ne veut pas me couper et ne veut pas me transformer en boulette. Il a envoyé Jésus me raconter l'histoire ou la parabole du semeur. Pourquoi a-t-il fait cela? J'aimerais vous suggérer parce qu'il ne veut pas donner à celui qui a et enlever à celui qui n'a pas. Dieu aimerait mieux agir d'une autre façon avec toi. Et il a envoyé Jésus pour t'avertir. Avec une grande simplicité d'ailleurs. Il y a un semeur qui sème la semence. La graine, elle tombe à une place où ça ne rentre pas, les oiseaux viennent puis le mangent. La graine, elle tombe à une autre place où il y a beaucoup de pierres, ça rentre à peine. Ça meurt. La graine, elle tombe dans une autre sorte de terre où est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont là puis qui remplissent la vie et le cœur, il n'y a pas de place pour la vie de Dieu. Et la graine aussi meurt. Mais il y a d'autres cœurs qui accueillent la vie de Dieu avec joie. Il a envoyé Jésus me révéler mon besoin de salut et mourir à ma place. C'est Jésus qui veut vivre les conséquences de ma faillite personnelle. Jésus, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie, et celui qui te permet de respirer ce matin, veut payer les conséquences de ton rejet de Dieu et de ta vie qui offense Dieu. Ah, mais si ça, c'est pas extraordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Si ça, c'est pas beau, il n'y a rien de beau. Moi, j'en viens pas, là. J'en viens tout simplement pas. J'ai travaillé avec du monde pas compétent dans ma vie, puis j'avais tout autre que le boss, les slacks. J'ai même rencontré des gens que j'espérais que Dieu fasse tomber la foudre directement dessus, puis c'est fini. Arrêtez de m'achaler. J'ai pas le cœur de Dieu. Dieu veut aimer, Dieu veut prendre soin, et Jésus nous avertit. Jean 3, le verset 18, nous dit la chose suivante. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » On a tous le même problème. On a tous le même problème. On n'est pas assez bon pour Dieu. C'est dur à croire quand vous me regardez, hein? Mais on est... Il n'y a pas personne d'assez bon pour Dieu. On est déjà tous jugés. On est déjà tous en bas de la coche. On est déjà tous en bas du standard de Dieu. Et il n'y a pas de place pour moi auprès de lui. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus vienne prendre ma place. Sans cette semence de laquelle Jésus parle dans la parabole du semeur, je ne suis absolument rien. Alors, il est très important que vous écoutiez et que vous compreniez le simple message de la parabole du semeur. Car en réalité, ce message est si simple qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Mais il y a tout à comprendre. Mais là, j'arrive à un point où ce que j'ai un dilemme dans ma réflexion humaine face à la parabole du semeur. Si l'enjeu, j'ai jusqu'à quelle heure? Mais là, j'ai un dilemme. Car si l'enjeu est si crucial, pourquoi il parle en parabole? Non, mais sérieusement, là. Tu peux pas être un peu plus clair si c'est si important que ça? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, mais tu sais, l'enjeu est important, là. On vient de voir l'enjeu, on vient d'en parler de l'enjeu, là, puis il parle en parabole. Tu peux pas être un peu plus direct, un peu plus clair? Pourquoi il parle pas tout simplement... comme tout le monde parlait, tu sais, qu'on se comprenne. Mais là, ça empire. Ça empire parce que l'explication, elle se donne en privé. Vous avez déjà vu quelqu'un annoncer l'Évangile dans une campagne d'évangélisation, puis après ça, aller dans une chambre en arrière faire l'appel? Ça passe mal. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, il semble que ça, c'est pas logique. Ton appel, tu n'aurais pas pu la faire devant la foule. Pourquoi Jésus ne s'empresse-t-il pas lorsqu'il a donné la parabole, d'en donner l'explication afin que tous puissent la comprendre? Je ne sais pas si vous êtes, s'il y a des gens ici qui sont un petit peu courageux, qui ne sont pas gênés de venir en avant. Je sais pas, c'est pas grave s'il n'y a pas de personne comme ça ici, là. Je chercherais quelqu'un qui est daltonien. Il y a peut-être quelqu'un qui lit, qui n'est pas gêné de l'être. Non? Oui, t'es pas gêné de l'être? T'assumes-tu ton handicap? Viens me rejoindre. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait là, daltonien, parabole du semeur? Attends, vous allez comprendre. Bonjour. C'est quoi ton nom?
Louis.
Monsieur Louis. T'as-tu de la difficulté à discerner les couleurs?
Moi, je travaille dans l'avion, puis la misère, des fois, ça vient vers d'autres.
OK. Allez pas à où tu travailles, la viande n'est pas bonne. OK.
C'est ça que tu m'as dit que c'est pour mes lunettes, c'est le médecin qui a dit que je fais
de l'alcool. OK. Tu vois-tu la différence entre ces deux-là?
Là, ça le voit bien.
Là, tu vois qu'il y en a un qui est vert et l'autre qui est rouge.
Ouais.
OK. Mais moi, j'avais un ami, là, j'aurais montré ça, puis il voyait pas la différence.
OK? Il voyait pas la différence?
Non, il voyait pas la différence. J'ai un oncle qui est daltonien.
Puis.
C'est ça. Mais j'ai un oncle qui est daltonien. Puis il est peintre. Mais lui, mais écoutez, là. Alors, c'était très, très beau. Sauf avec certaines couleurs, il fallait que ça soit écrit sur le tube. Et il a fait un beau paysage. Toutes les troncs étaient verts, puis les feuilles étaient brunes, puis le gazon était brun. Les nuances étaient super belles. C'était vraiment beau, mais on s'entend comme beau. Maintenant, si je te présente cette feuille de papier-là, là, tu es capable de me dire qu'elle est verte.
Ouais.
Bon, tu me bon. Non. Bon, c'est pas bon. Tu peux aller te rasseoir. Pas grave, mais les gens vont comprendre quand même. Merci beaucoup, Louis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, c'est correct. De toute façon, on va manquer de temps, là. Vous allez comprendre le point là, dans une seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez audacieux pour venir en avant puis tenir ce carton-là puis dire devant tout le monde, c'est rouge? À moins que vous vouliez jouer une joke ou vous manquiez de raisonnement, ou que vous soyez daltonien, vous n'avez pas le choix. Maintenant, pour un vrai daltonien, si je lui donne les deux couleurs, puis je lui dis, je veux que tu tiennes celle-là, puis tu dises, c'est vert, la seule chose qu'il peut faire, c'est me faire confiance. Parce que si je le niaise, puis il dit, c'est rouge, il passe pour un fou. Jésus parlait comme personne, faisait des miracles, tenait tête à l'autorité spirituelle, avait une force de personnalité qui attirait les gens. La preuve, c'est qu'il devait enseigner au bord de la mer, prêt à embarquer dans une chaloupe si la foule devenait trop imposante. On voulait le toucher, l'entendre, être près de lui. On lit des récits dans les évangiles où Jésus faisait déplacer des milliers de personnes, simplement parce qu'on voulait le voir, l'entendre. Avec une telle prestance, Jésus mettait en péril l'existence même de la foi de ses auditeurs. Il avait assez de ressources à sa disposition pour prouver et démontrer aux plus endurcis qui il était et amener chacun, sans exception, à la repentance. Mais la foi demeure et doit demeurer un acte de foi. Et ne doit jamais devenir un acte de persuasion où, à bout d'arguments et de preuves, on me tord le bras pour admettre que c'est vrai. Quelqu'un, dans tout son bon sens, il a beau pas vouloir, mais il n'a pas le choix, c'est vert. Et Jésus avait assez de pouvoir entre ses mains quand il racontait la parabole du semeur qui aurait pu présenter un carton, puis tout le monde aurait dit, « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! » Tout le monde serait venu en avant. Sans exception. Mais ça aurait été complètement contre le cœur de Dieu. Contre la relation personnelle d'amour que Dieu veut avec moi et avec toi. Jésus avait besoin de parler en parabole pour protéger la foi. Il avait besoin de parler en parabole pour filtrer. Jésus donnait assez d'informations que quelqu'un qui est intéressé va aller plus loin. Quelqu'un qui n'est pas intéressé va s'en aller. La dernière fois que je suis venu, on a parlé sur le jeune homme riche. Et Jésus regarde les autres, après qu'il part, il dit pas quelqu'un d'autre qui veut s'en aller. À quelque part, je dois avoir le choix de dire non, je ne veux pas. Les paraboles étaient justement une façon de filtrer afin que seulement ceux qui cherchent trouvent. Tu cherches pas, tu veux pas, Dieu respecte cela. Tu vas en subir les conséquences, mais Dieu respecte cela. Deuxièmement, cette parabole est quelque peu ironique, car un bon vendeur ne devrait jamais dire à ses clients, il y en a qui n'aiment pas mon produit et qui, après un certain temps d'utilisation, décident qu'ils n'en veulent pas. Avez-vous déjà entendu ça? À boutique TVA, là? Ça passerait bien. Je vends le meilleur produit, il y en a qui n'aiment pas ça, puis après un certain temps, ils l'abandonnent. Acheté en 4 versements facile. C'est pas logique, ça marche pas. Vous avez parfaitement raison. Parce que Jésus n'est pas un vendeur. Jésus n'est pas un vendeur, il n'y a rien à vendre. Jésus est un maître qui appelle ses disciples à le suivre, lui et lui seul. Jésus ne veut pas de vendus ou de suiveux. Si tu es un vendu ou un suiveux, là, Jésus te regarde, tu ne veux pas t'en aller? Tu sais, je ne te retiens pas, moi, là. Il veut des disciples. On n'essaie pas la foi pour voir si ça marche. L'essayer, ce n'est pas l'adopter. Il faut le vivre, il faut la vivre cette foi, et à 100% dès le premier instant, sinon, échec assuré. Rappelez le Star Wars, quand Luke il tombe dans le marécage avec son vaisseau spatial, puis que là, son vaisseau spatial, il ne sait pas s'il va être capable de le faire sortir. Puis là, avec la force, là, il essaie de le faire sortir. Puis Yoda, il dit, « Essaye pas, fais-le. » C'est ce que Jésus vous dit ce matin. Essaye-moi pas, tu m'auras pas. Tu me veux ou tu me veux pas? Essaye-moi pas. Hey chérie, je te demande un mariage à soir, là, puis on va s'essayer pour une couple d'années, OK? Avec ce qu'il veut t'offrir, la facilité avec laquelle il te l'offre, il n'y a pas à baisser ou à fliger d'une petite coche. Il en a déjà fait assez. Ah oui, goody, voir, tu vas aimer ça. Non. T'en veux ou t'en veux pas? Si t'en veux pas, tu peux aller voir ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va coûter cher aller voir ailleurs. Ça, je vous le promets. Parce que sans Jésus, la vie n'a pas de valeur. Troisièmement, cette parabole nous donne la raison d'être même des paraboles. On voit au verset 9, et on le revoit aussi un petit peu plus tard dans la parabole, que Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu dire des gens, ben ça veut dire, si le chapeau fait, mets-le. Ou si le chapeau te va, hein, c'est ça l'expression, si le chapeau te va, mets-le. Mais, non, c'est pas ça que ça veut dire. J'aimerais vous suggérer que ça veut dire « arrange-toi pour comprendre ». Arrange-toi pour comprendre. Moi, je te donne de l'information, je t'en donne assez que si tu veux comprendre, tu puisses comprendre. Maintenant, arrange-toi pour comprendre. Les paraboles, c'est des « arrange-toi pour comprendre ». La responsabilité de comprendre le message de Jésus n'est pas sur ses épaules et sur la tienne. Ah, oh, monsieur l'agent, je ne savais pas que c'était 50 km/h ici. Vous n'allez pas me donner l'étiquette parce que je ne le savais pas, hein? Ça ne marche pas comme ça. Parce que si ça marche, vous avez des beaux yeux. Arrange-toi pour comprendre, puis arrange-toi pour le savoir. Tu en as assez pour comprendre. Comprend. Message très simple, très intéressant, mais pas trop clair. L'intérêt, la recherche personnelle, un cœur disposé, voici ceux à qui Dieu veut se révéler. Intérêt, recherche personnelle. C'est en privé que les gens viennent voir Jésus pour lui poser des questions. Qu'est-ce que ça fait? Ça lui fait plaisir d'expliquer ce qu'il vient dire. Seigneur Jésus est content de répondre à tes questions. Et ce n'est pas parce que tu as des questions que tu n'as pas de foi, ce n'est pas parce que tu as des questions que ça choque Dieu, au contraire. Dieu aime les questions. Amenez-en des questions. Mais amenez-les au moins. Amenez-les au moins. Un message qui cible un certain type de personne. C'est un message qui ne donne rien à celui qui ne veut rien. C'est un message qui ne donne rien à celui qui ne veut rien. Si vous devez comprendre que dans le contexte, Jésus s'adresse à un peuple qui, par le fait même qu'ils sont juifs, croient obtenir le royaume de Dieu. Et là, Jésus s'adresse à eux pour dire que il y en a qui reçoivent le royaume, ou qui ne le reçoivent pas pantoute, puis il y en a deux autres qui le reçoivent mal, puis il y en a juste un qui le reçoit bien. Oh! C'est dérangeant, ça, pour des gens qui pensent qu'ils sont tous corrects devant Dieu. C'est dérangeant, ça, pour des gens qui pensent faire partie du royaume de Dieu, se faire dire que, ben, il y en a au moins 75% ici. Ils n'en font pas partie. C'est choquant. Il y a des gens ici qui se pensent sauvés, qui ne le sont pas. Si je vous dis. Et qui ont besoin d'arrêter d'essayer Dieu. Ils ont besoin d'arrêter de jouer à l'Église. Vous savez, vous avez joué à papa et à maman quand vous étiez enfant, mais là, c'est le temps d'arrêter. C'est le temps de tomber à genoux devant le Créateur et de se repentir, de demander pardon, de reconnaître qu'on est méchant. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas à l'Église. On ne joue pas à la spiritualité. On est vrai ou on ne le suit pas. Est-ce que je sais c'est qui? J'ai aucune idée. Peut-être que même vous ne le savez pas. Vous avez besoin de prier. Venir devant Dieu avec un cœur sincère, un cœur repentant. Là, j'ai un autre problème. J'en ai des problèmes un matin. La bonne terre. C'est quoi ça, la bonne terre? Jésus, justement, était à la recherche de cette bonne terre. Comme tout semeur, d'ailleurs. Et comme on l'a déjà vu, la prestance de Jésus rendait nécessaire de filtrer les suiveurs pour atteindre les disciples en devenir. La parabole du semeur est justement un filtre pour permettre à la semence de se rendre à la bonne terre. Mais c'est quoi la bonne terre? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais je ne comprends pas, il n'y a pas personne qui a de la bonne terre. Tous sont égarés, tous sont pervertis, nul ne cherche Dieu. C'est quoi ça de la bonne terre? Si vous recevez Jésus dans une bonne vie, ça serait quoi de le recevoir? Mais il a déjà répondu à cette question-là, Jésus, dans Marc 2, le verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » C'est pas, la parabole ici n'est pas en train de te dire, « Arrête de faire tout ce que tu fais de mal, règle ta vie, puis après ça, la semence, ça va marcher dans ta vie. » Non, non, non. Pas ça qu'il est en train de dire. Il a déjà dit à qui il s'adresse. Il s'adresse à des gens qui sont malades. Ça ne va pas bien. Des gens qui sont pécheurs. Des gens qui sont en offense devant Dieu. C'est à ces gens-là que Dieu s'adresse. La bonne terre. Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Ça ne dérange pas la quantité de cochonnerie qu'il y a dans ton cœur ou dans le mien. Mais les épines, les roches, puis le cœur dur, c'est de l'orgueil qui empêche ta vie de porter du fruit pour le Seigneur Jésus. Tombe à genoux devant ton Créateur ce matin. Donne-lui ta vie. Demande-lui de te pardonner de tes offenses et de tes péchés. Et il va le faire. C'est pas compliqué. Et sais-tu quoi? Ta vie va porter du fruit. Et si tu sens que tu perds les pédales dans ta vie chrétienne, au lieu de te forcer bien fort pour porter du fruit, arrête de forcer bien fort. OK? Arrête. Reviens à la base. On n'aura pas le temps d'aller bien, bien plus loin. Mais on lit que la semence, elle pousse. Que le semeur soit réveillé ou qu'il dort, puis il ne sait pas comment qu'elle pousse. Ce qui est important, c'est de bien commencer. Et c'est Dieu qui t'accompagne et qui t'amène à la maturité chrétienne. Alors là, je vais laisser du travail pour ceux qui me suivent, parce que je ne me rendrai pas jusqu'au verset 34 ce matin. Déjà dépassé le temps par 5 minutes. Je suis désolé. Mais j'espère que vous avez compris ceci. J'espère que vous avez compris ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus ne veut pas de suiveux, d'essayeux ou de gens qui jouent à l'église. Jésus veut des cœurs entiers qui viennent à lui. Jésus, ce n'est pas un vendeur qui essaie de te faire plaisir, c'est un maître. Et on cède à sa discipline et on devient disciple, ou on dit non et on continue. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ces paroles que tu nous as adressées ce matin, que nous puissions venir devant toi avec un cœur sincère et que tu puisses nous sécuriser, nous rencontrer. Si on a besoin de se repentir, que nous puissions le faire. Si nous avons besoin de te demander pardon pour certaines choses, que nous puissions le faire. Et Seigneur Jésus, peut-être qu'il y a des gens ce matin qui se sont rendus compte qu'ils jouaient un jeu. Je te prie que tu puisses les briser, les amener à la joie de te connaître. Et je te prie que tu puisses sécuriser ceux qui te connaissent personnellement, parce que cette parabole n'a pas été écrite pour mettre le doute dans nos cœurs sur notre salut, mais au contraire, que nous puissions tout simplement être sécurisés par le fait que tu vas produire du fruit en nous si on t'aime. Et on veut attendre que tu le fasses. On veut être disponible que tu le fasses. Et on t'aime, Seigneur Jésus. Merci pour le temps qu'on a eu ce matin pour te rencontrer. Amen.